Alors, deuxième partie, agapé ou l'amour de don. Dans Eros, c'était l'amour de désir. Alors maintenant, nous tombons dans la quotidienneté. Hein. Mais là aussi, ce n'est pas méprisable, parce que la sidération, sauf à mourir sur place, hein, dans l'instant qu'on en est le siège, hein, elle a nécessairement des lendemains. Alors, d'où vient agapé? Le mot grec agapé, c'est le mot que le Nouveau Testament emploie toujours pour dire l'amour. Hein. Le mot eros est absent du Nouveau Testament, hein, du texte néo-testamentaire. Par exemple, aimez-vous les uns les autres, hein, aimez-vous les uns les autres se dit en grec agapate allelous. Hein. Voilà, agapane. Hein. Et ce mot a donné le mot français agape. Agape, c'est un repas fraternel, d'où des agapes, etc. Alors, Jérôme, dans la Vulgate, qui est sa traduction de la Bible, en latin, traduit agapé par caritas. Caritas a donné le mot charité. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, charité est devenu un peu péjoratif, avec des connotations paternalistes ou condescendantes, vous voyez, faire la charité, etc. Hein. Donc, il vaut mieux employer amour, hein. Lorsqu'on nous dit Dieu est amour, Deus est caritas, Dieu est amour, dans l'épître de Jean, vous pouvez employer le mot amour. Hein. Finalement, le passage essentiel du Nouveau Testament pour consacré à agapé, c'est la première épître aux Corinthiens de Paul, hein, de l'apôtre Paul, ou alors au chapitre 13, et verset 1 et suivant, hein, où Paul nous dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Alors cet hymne, elle est dite, hymne est féminin, je vous signale, on l'a dit souvent lors des mariages, hein. Donc l'amour est tout, supporte tout, etc. Hein. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Les cathares disaient, traduisaient le Nil Sum de la Vulgate, « Je suis un néant ». Vous voyez, « Si je n'ai pas l'amour, je suis un néant ». Comme dit Edith Piaf, « Sans amour, on n'est rien du tout hein. ». Vous voyez, voilà, bon. Alors, bien entendu, agapé se séparera d'Eros sur beaucoup de plans. Les théologiens distinguent l'amour de désir, qu'ils appellent l'amour de concupiscence, amor concupiscentiae, hein, qui est Eros, et l'amour de bienveillance, amor benevolentiae, l'amour de bienveillance. Donc, l'amour de concupiscence, ou Eros, c'est un amour captatif, c'est-à-dire un amour qui veut recevoir, hein, qui veut recevoir, qui veut annexer aussi l'autre. Hein. Bon, même s'il n'est pas comestible, il veut l'annexer. Hein. Eros cherche une fusion, une identification avec son objet. Et alors, agapé, au contraire, c'est un amour oblatif. Alors, oblatif vient du latin obfero, obferé, qui a donné offrande. C'est un amour de don, qui veut donner. Donc, Eros veut recevoir et agapé veut donner. Et alors, agapé respecte bien sûr l'altérité de l'autre. Si vous voulez comprendre ce qu'est agapé, vous connaissez dans la Bible le passage du jugement de Salomon. Il y a deux femmes qui se disputent un enfant, et Salomon dit « Qu'on m'apporte mon épée ?» Salomon s'apprête à partager l'enfant en deux et en donner la moitié à chacune. Et une des deux femmes dit « Non, qu'il vive !» Et Salomon dit, « Bien, cet enfant est à toi, je te le donne. » Elle a préféré, cette femme-là, dans son amour oblatif, que l'enfant soit à une autre, plutôt que d'avoir la moitié d'un enfant mort, vous voyez. Donc là, on voit bien la caractéristique de du don. Hein. Attalide, dans Bajazé de Racine, dit, « J'aime assez mon amant pour renoncer à lui. » Ou bien alors, si c'est pas la Bible qui actuellement est négligée, que personne ne lit, prenez par exemple le fameux couplet sur que dit le boulanger aimable dans La femme du boulanger de Pagnol, d'après une nouvelle de Giono, Jean le Bleu. Hein. Alors vous connaissez l'histoire, hein. La boulangère voit un beau berger italien et aussitôt elle s'enflamme. Elle est dans le cas d'Eros. Hein. Elle s'enflamme et ils s'enfuient tous les deux. Et le boulanger, aimable, est évidemment très triste. Il fait plus de pain, il entre en dépression, etc. Hein. Et alors il faut que tous les villageois, ils veulent aussi avoir du pain, les villageois, hein. Par compassion, non, peut-être pour le boulanger, mais aussi pour avoir du pain, ils s'unissent pour aller justement récupérer la boulangère. Alors on récupère la boulangère, elle revient auprès de son mari, et alors c'est là qu'on a le beau passage sur la tendresse. voyez, sur la tendresse. Alors, l'aimable boulanger dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Bien sûr, il était beau, mais qu'est-ce que c'est la beauté? Alors il dit même des choses comme les Chinois sont tous pareils, les nègres sont tous pareils. Vous savez, à l'époque, on employait des mots comme ça, hein, les nègres, etc. Bon, il n'y avait pas de racisme du tout, c'était dans le vocabulaire, hein, bon. Et alors, le boulanger dit, et la tendresse? Qu'est-ce que tu fais de la tendresse? Est-ce que c'est ton berger qui se serait réveillé la nuit pour voir si tu étais bien couverte et pour te mettre une couverture? Est-ce que c'est ton berger qui t'aurait amené le petit déjeuner au matin, le matin, comme je fais, etc.? Vous voyez? Bon. Donc, c'est pas rien, ça non plus. La tendresse, hein. Voilà. Alors, il y a une chanson de Marie Laforêt sur la tendresse, hein, qui est chantée aussi par Bourville, hein. Bon. Ce n'est pas rien du tout. Et le berger se situe dans le cadre de la pulsion élémentaire, c'est-à-dire de la nature, si vous voulez, hein. Alors que aimable, avec la tendresse, se situe dans ce qu'on appelle la culture. N'oubliez pas que le berger est nomade, et les villageois sont sédentaires, vous voyez. Vous avez là l'opposition de la nature et de la culture, hein. Donc l'intensité de la passion qui nous enflamme, le berger dans la forêt, hein, le berger s'est réfugié dans les bois, de façon sauvage. Sauvage vient du latin silvaticus, qui veut dire, qui a un rapport à la forêt, forestier. Silva, c'est la forêt, vous voyez, hein, bon. Donc, c'est l'opposition nature et culture, que j'ai exprimée dans mon livre de culture générale, dans tout le premier chapitre. Donc, Agapé introduit par la tendresse la notion de perspective temporelle, de finalité donnée à la conduite, un but. Hein. Tandis qu'Eros veut s'anéantir dans l'extase d'un instant, extasis, sortir hors de soi, en hein, quelque sorte, hein, comme le papillon qui brûle ses ailes à la flamme de la bougie et va y trouver la mort, hein, voilà, hein, il meurt dans la chandelle qui le fascine, eh bien Agapé, au contraire, se projette dans l'avenir. Et c'est ce que indique la liturgie du mariage. Alors, si on dit si on fait une cérémonie de mariage en français, le prêtre dira « Je vous unis en mariage ».« Je vous unis en mariage ». Mais on ne comprendra rien. Il faut le dire en latin. Hein. En latin, vous avez « Ego coniungo vos in matrimonium ». Vous avez un accusatif après « in » qui indique le lieu où l'on va. Ça veut dire « je vous unis pour le mariage » et non pas « dans le mariage où vous vous trouveriez déjà » parce que sinon vous auriez un ablatif après « in », vous auriez « in matrimonium », voyez. Donc « je vous unis en mariage » ne dit rien, mais « je vous unis ego coniungo vos in matrimonium »,« je vous unis pour le mariage », alors là ça dit l'essentiel. Donc il faut faire du latin, hein. il faut le défendre, ce pauvre latin, hein, malgré ce que dit notre ministre, hein. Il ne faut pas le faire diluer dans une espèce de brouée, hein, de soupe de civilisation. De toute façon, si on ne connaît pas la langue, on ne connaît rien à la civilisation. Hein. Donc la langue contient tout, hein, tous les phénomènes de civilisation. Mistral le disait en provençal, si tu as la langue, tu as la clé. Hein, voilà. Donc réduire le latin à quelque chose d'interdisciplinaire dans la fameuse civilisation, ça fera oublier la langue. Alors les élèves seront contents, effectivement, parce que ça ne fera pas d'effort, mais la déculturation va être gigantesque. Donc voilà, il faut bien comprendre ces formules de la liturgie, sauf à y perdre son latin. C'est-à-dire que le mariage doit se situer dans une perspective, non pas de causalité, mais de finalité, vous voyez. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'on l'aime, mais on épouse quelqu'un pour l'aimer. Voilà la différence, hein. Donc c'est le but, la finalité qui est importante. Peut-être qu'il faudrait le réserver à la fin de la vie comme une décoration, vous voyez, hein. On s'en est rendu digne, etc. Hein. Pourquoi pas, hein. Voilà. Donc sur mon blog, j'ai mis une photo de deux mains, une main masculine, une main féminine. Je pense à, vous connaissez la fiancée juive de Rembrandt, hein, vous voyez les deux mains, hein, qui se rejoignent. Eh bien, deux mains se situent dans la perspective du deux mains, hein. Deux mains disent deux mains. Voilà, hein. Alors, pour résumer, je dirais que si Eros veut être sidéré par l'expérience dont il est l'occasion, au risque de fermer les yeux et ses yeux éblouis, Eh bien, agapé, au contraire, veut considérer l'autre. Vous voyez la différence entre sidérer et considérer. C'est-à-dire, alors, considérer, ça a deux sens. C'est-à-dire à la fois le regarder, le voir, hein, et le prendre en considération. Vous voyez? Même dans l'amour physique, la posture dite du missionnaire permet justement, c'est pas la posture que pratiquaient les missionnaires, hein, c'est la posture que conseillaient les missionnaires aux sauvages. Donc elle permet la considération, hein, la considération, c'est-à-dire de se voir, hein. Bon, ce n'est pas du tout naturel, ça, hein, c'est culturel, c'est éminemment culturel. Vous voyez? Donc, aimer quelqu'un, dans le cas d'agapé, c'est agir. Aimer, c'est aider, il n'y a qu'une lettre qui change, hein. Aimer, c'est aider, c'est agir pour le rendre heureux ou pour la rendre heureuse. Et alors Cocteau disait dans Les Dames du Bois de Boulogne, le film de Bresson, dont Cocteau avait fait les dialogues, il dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein. Voilà, donc aider. Alors, à la passion, on peut opposer aussi la compassion, vous voyez, l'idiot de Dostoïevski, etc. Bon, tout ça, c'est bien séparé. Alors, maintenant, au point où j'en suis dans mon exposé, vous allez dire, bon, tout pour agapé, rien pour Eros, etc. Non, c'est très compliqué, parce que dans une même vie, vous pouvez avoir les deux états. Alors, nouvelle entracte, je vais vous faire une lecture maintenant d'un poème de Brassens qui s'appelle Bonhomme. Hein. Voilà, c'est une chanson. Malgré la bise qui mord, la pauvre vieille de Somme va ramasser du bois mort pour chauffer Bonhomme, Bonhomme qui va mourir de mort naturelle. Mélancolique, elle va à travers la forêt blême, où jadis elle rêva de celui qu'elle aime. Vous voyez la différence? Jadis elle rêva, Eros, de celui qu'elle aime maintenant, de celui qu'elle aime. Qu'elle aime et qui va mourir de mort naturelle. Rien n'arrêtera le cours de la vieille qui moissonne, le bois mort de ses doigts gourds, ni rien ni personne. Car Bonhomme va mourir de mort naturelle. Non, rien ne l'arrêtera, ni cette voix de malheur, qui dit quand tu rentreras chez toi tout à l'heure, Bonhomme sera déjà mort de mort naturelle, ni cette autre et sombre voix montant du plus profond d'elle, lui rappeler que parfois il fut infidèle, car Bonhomme il va mourir de mort naturelle. Alors là, on a exactement ce qu'est agapé, mais il faut pas oublier la fin. Agapé, c'est, au lieu de penser à elle, qu'est-ce que je vais devenir toute seule à présent, il va mourir, etc. Non, elle va ramasser du bois mort pour réchauffer les derniers instants de son mari. Hein. Alors là, c'est aimer, c'est aider. Bon, alors jadis elle en rêva, elle l'a aimé dans la modalité d'Eros, maintenant elle l'aime dans la modalité d'Agapé. Mais quand même, elle continue de souffrir de jalousie. Vous voyez, ni cette autre et sombre voix montant du plus profond d'elle lui rappelait que parfois il fut infidèle, vous voyez. Donc, la jalousie, c'est Eros, la jalousie, hein. Donc, on ne peut pas, comment dire, cliver les choses, les séparer si violemment, hein. Ça serait trop simple, ça serait trop simple. Aimer quelqu'un d'un amour mature, si vous voulez, n'empêche pas, justement, d'être jaloux et aussi de vouloir faire perdurer quelques rêves d'autrefois. Alors, la troisième partie du livre, après Eros ou l'amour de désir, Agapé ou l'amour de don, c'est du bon usage de l'amour. Hein. Vous voyez? Bon. Alors, ces deux pôles que je viens de décrire, on peut les défendre également. Hein. Alors, on peut très bien en rester à Eros toute sa vie. Moi, je n'ai rien contre. Hein. On peut très bien rester toute sa vie, chercher la sidération, c'est-à-dire l'éblouissement devant la beauté. Bon, on peut le chercher. Hein. Au début de la vie, on peut être ébloui comme Werther chez Goethe. Werther, dans les souffrances du jeune Werther. C'est l'amour romantique immature, si vous voulez. Bon, il est ébloui inconsciemment. Mais on peut aussi cultiver consciemment cet éblouissement. C'est le cas de Don Juan. Alors Don Juan, c'est pas le contraire de Werther. C'est l'aboutissement logique d'une tactique, si vous voulez. Hein. Don Juan, c'est moins un séducteur qu'un homme perpétuellement séduit. il veut toujours être séduit. La logique est la même. Tous les deux, l'amoureux romantique transi comme Werther ou Don Juan, le séducteur cynique, si vous voulez, séducteur entre guillemets, ils aiment le désir pour lui-même. Mais l'amoureux romantique ne s'en rend pas compte, tandis que Don Juan se rend compte et cultive le désir pour lui-même. Voyez sa profession de foi dans la pièce de Molière, à la scène 1 de l'acte 1. Il dit à Scannarelle, « Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je lui tends les armes vaincues de loin que je la vois approcher. » Vous voyez, la beauté me ravit, c'est un rapt, hein. Voilà, ravissement, voilà. Donc, il est constamment séduit. Alors, il va de femme en femme, effectivement, pour avoir toujours, il est toujours dans la poursuite de cette sidération. Il dit, sitôt qu'on en est maître une fois, tout le beau de la passion est fini. Vous voyez, sitôt qu'on a conquis, comme on dit, hein, une femme une fois, alors la passion disparaît. Donc, on dit que Don Juan, s'il va d'une femme à l'autre, c'est qu'il n'a obtenu d'aucune tout ce qu'il en attendait. Moi, je crois que c'est parce qu'il a obtenu de chacune tout ce qu'il en attendait, vous voyez, c'est-à-dire le rêve, hein, le rêve imaginaire. Tu n'as jamais été dans tes jours les plus rares qu'un banal instrument sous mon archer vainqueur, et comme un air qui vibre au bois creux des guitares, j'ai fait chanter mon rêve au vide de ton cœur, vous voyez. Donc, voilà, c'est un instrument creux, la guitare, mais on fait chanter un rêve comme ça. Hein. Donc, c'est si vrai qu'un même homme peut dans sa vie commencer par être un amoureux transi de façon romantique et terminer par être comme un Don Juan cynique. L'exemple type, c'est Musset. Hein. Dans Les Nuits, Alfred de Musset parle de l'amour de façon très sublimée au sens freudien, de façon très idéaliste, mais dans La Coupe et les Lèvres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ». Vous voyez, hein, « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ». Donc ce qui montre bien que ce qui compte, c'est l'ivresse, hein, précisément. Donc, si on est dans cette logique-là, on peut y rester, mais évidemment, on ne rencontre pas l'autre, hein. L'erreur d'Eros, c'est qu'on ne connaîtra jamais l'autre. Je vais prendre, pour vous faire comprendre ça, je vais prendre une comparaison. Supposez un tailleur qui fasse un costume pour un client. Le client vient essayer le costume. Bon, qu'est-ce que vous diriez si ce tailleur voulait tailler dans le client? Vous touchez le client, vous direz, c'est un mauvais tailleur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retoucher le costume, vous voyez. Donc, nous sommes des tailleurs, comment dire, très inconséquents, hein, puisque quand l'autre ne répond pas à notre attente, nous voulons tailler dans le client, en quelque sorte, hein, au lieu de retoucher le costume. L'autre n'est pas conforme à l'idée que l'on s'en était fait, eh bien, à ce moment-là, retouchons ses projections, hein. Donc, il est absurde de le lui reprocher. Moi, je crois que le problème d'Eros, il est là. Et quand on dit à quelqu'un « je ne te reconnais plus », ça veut dire qu'on commence à le connaître, tel qu'il est, hein. Alors, il faudrait faire le ménage dans nos projections. Le problème d'Eros, c'est qu'il est incapable d'assumer le déroulement du temps, hein. Il y a un livre de Ferdinand Alquier qui s'appelle « Le désir d'éternité » qui nous montre que l'homme a parfois ce besoin d'arrêter le temps. Mais on ne peut pas l'arrêter, le temps. Le temps, comme Chronos, vous savez, Chronos dévore ses propres enfants dans la mythologie grecque. Hein. Vous connaissez le tableau de Goya. On le voit en train de dévorer un enfant sanguinolent, etc. Un tableau très impressionnant. Chronos, c'est ça. Le nom latin, c'est Saturne. Hein. Saturne, c'est le titre du tableau de Goya. Mais c'est Chronos. Chronos dévore ses enfants. Ça veut dire que nous sommes enlisés dans le temps. Le temps nous dévore. Et le temps m'engloutit minute par minute, comme la neige immense, un corps plein de froideur. Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur, et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. Vous voyez. Donc, c'est une espèce de, comment dire, de refroidissement ou d'entropie, vous voyez, une entropie, hein. C'est-à-dire, l'entropie, c'est ainsi, dans la thermodynamique, c'est le second principe de Carnot-Clausius, en thermodynamique, ça veut dire que dans un système clos, l'énergie se dissipe, c'est un refroidissement. Donc, le temps est entropique, hein, où il y a une espèce de rouille qui se dépose sur toute chose. Et alors, après, des catastrophes s'en suivent. Donc on cherche la fin. Raymond Devos a eu un mot que je trouve charmant là-dessus. Il dit « Au début, ma femme et moi, on n'osait pas se regarder, et maintenant, on ne peut plus se voir. » Bon, alors c'est vrai que de ne pas oser se regarder mène à ne plus pouvoir se voir, hein. Ça c'est sûr. Et ça se passe très souvent, je vous le signale, à la retraite, hein. Parce que à la retraite, une fois les activités, derrière nous, on est face à face avec l'autre, hein. Et comme dit Brassens, ce n'est pas une sinécure que de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure, vous voyez, hein. Donc, il faut préparer sa retraite aussi, hein. Voilà. Bon. Alors voilà le danger d'Eros. Mais Agapé a aussi un danger. Alors lequel? Eh ben, c'est le sacrifice de soi, hein, dans Agapé. C'est bien beau de donner, hein, mais attention, il faut aussi avoir une certaine unité intérieure. Hein. Donc, quand l'amour, dans la modalité Agapé, devient sacrificiel, ce type d'amour est suicidaire. Hein. Il fait mépris de soi-même, et cela n'est jamais bon, de faire mépris de soi-même. Qui n'est bon pour soi n'est bon pour personne. Hein. Donc, et Paul, alors dans cet hymne-là que j'ai cité tout à l'heure, l'amour surpasse tout, etc. L'amour est, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est très beau, ça, c'est très beau. Mais bon, il dit à un moment, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Alors là, si on dit ça aux jeunes mariés, hein, à l'église, l'amour supporte tout, alors comment ils vont le comprendre, hein? Ça peut aller du plus banal, du plus ridicule, du plus sordide, au plus grave. Par exemple, si le mari ronfle dans le lit conjugal, est-ce qu'il faut le supporter, hein? Bon, vous voyez, bon, là, vaut mieux changer de chambre, hein, me semble-t-il. Bon, plutôt que... voilà. Alors, ça, c'est le ridicule, mais le grave, le tragique, c'est si le mari se met à battre sa femme, hein. Est-ce que l'amour supporte tout? Est-ce que l'amour doit tout supporter? Vous voyez? Donc, je suis pas du tout d'accord avec Paul, ni avec sa théologie, je suis violemment anti-paulinien, parce que c'est un christianisme qui peut mener à une idéologie sacrificielle, hein, du sacrifice, voilà, hein, avec sa adoration de la croix, de l'expiation par la croix, etc. Hein. Bon, pas du tout. Alors, l'amour supporte tout, non, hein, je l'ai bien expliqué dans mon livre qui s'appelle « La source intérieure » que vous avez sur la table à côté, hein. Donc il y a un côté pervers, hein, il me semble, dans le christianisme même. Moi je préfère le christianisme dans sa modalité gnostique. On verra à la fin de mon exposé ce que peut être la gnose, hein, bon. Mais pas dans la modalité paulinienne. Et pourtant c'est la modalité paulinienne qui est la plus répandue, hein, il faut le savoir. Hein, c'est celle qui est le plus... le christianisme majoritaire aujourd'hui, hein, il est paulinien le christianisme, bon. Alors, si vous vous sacrifiez, d'abord, vous, par un mécanisme compréhensible, le sacrifice de soi peut générer l'agressivité, hein, parce que plus on s'infériorise, hein, plus on devient agressif et violent, hein, plus on fait mépris de soi. Regardez, par exemple, les chiens qui aboient le plus fort, c'est les chiens les plus petits, hein, c'est-à-dire ceux qui se sentent démunis, vous voyez. Et Paul lui-même, il dit, Christ m'est apparu à moi comme un avorton. Et Paulos, ça veut dire petit, c'est appelé petit, etc. C'est pas sain de se déprécier comme ça, hein. Donc, parce que il faut aussi prendre en compte ce que l'on est. Aime ton prochain comme toi-même, et pas plus que toi-même, vous voyez. Si le moi est haïssable, comme disait Pascal, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie, vous voyez. Donc, Donc il faut se méfier dans cette idée de sacrifice de soi, et je l'ai développé dans tous mes livres consacrés à la religion. Alors, il reste quelques points à esquisser pour faire qu'une relation, à mon avis, ait les meilleures chances de durer. Alors, dans ma troisième partie, j'ai fait du bon usage de l'amour, hein, comment faire, hein, comment faire. Alors, d'abord, il faut se persuader que dans l'amour, la fusion absolue n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de fusion. C'est pas possible. Hein. La fusion. Parce que Eros cherche la fusion, mais elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que, anthropologiquement parlant, et ontologiquement même, nous sommes seuls dans la vie. Nous sommes seuls. Hein. Attention. Surtout, ne confondez pas la solitude, qui est une constante anthropologique, et qui est très bénéfique, à mon avis, car elle permet de se réunir à soi-même, elle permet le centrage, la réunion à soi, ne confondez pas la solitude avec l'isolement. c'est l'isolement qui est catastrophique. Hein. Mais la solitude, elle, c'est une très très bonne chose. Hein. On est, de toute façon, on est seul. Hein. Alors, les gens qui cherchent un partenaire pour ne pas être seuls, alors ils vont réifier l'autre, ils vont l'instrumentaliser, ils vont en faire un moyen hein, pour fuir leur propre solitude, alors que Kant, le philosophe Kant, nous dit qu'il faut agir en traitant l'autre jamais comme un moyen, mais comme une fin, un but. Hein, voilà. Regardez les petites annonces des rencontres dans les journaux. Hein. N'en pouvant plus de solitude, cherche l'âme sœur. Voilà. Hein. Bon, c'est alors à ce moment-là, il vaut mieux prendre un animal de compagnie hein, ou un poisson rouge, si vous voulez. Hein. Bon, là, c'est réifier l'autre, c'est en faire, comment dire, comme un édredon, quelque sorte, quelque chose de douillet, contre quoi se blottir, etc. Non, c'est la solitude, elle est constante dans l'être, hein. Malgré ce que l'on nous dit, malgré tout ce que disent les films, les chansons, etc. sur la fusion, ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas. Rilke a dit une très bonne définition de l'amour dans ses lettres à un jeune poète. Il dit aimer, c'est deux solitudes qui se protègent, se bornent et se rendent hommage. Voyez. Deux solitudes qui se protègent, se bornent et se rendent hommage. C'est-à-dire accepter, justement, au lieu de cette fuite hors de soi que tous les gens aujourd'hui font, la plupart des gens, qui est du divertissement, divertere, détournement. On se détourne de soi-même, hein, on se détourne de soi-même. Alors on va se raccrocher aux autres, etc., bon, pour se fuir soi-même. Non, la plupart des temps, les gens vivent par les autres et pour eux-mêmes, c'est-à-dire de façon égocentrique. Alors qu'il faudrait vivre par soi-même et pour les autres. Vous voyez la différence? Au lieu de vivre par les autres et pour soi, il faudrait vivre par soi, c'est-à-dire savoir être seul, savoir vivre même en autarcie, hein, se suffire à soi-même, et ensuite on peut s'ouvrir aux autres. Parce que seul celui qui a apprivoisé sa solitude, qui s'est centré, qui s'est réuni à lui-même, peut bien se socialiser. La socialisation est seconde, la solitude est première. Mais c'est très important la socialisation, moi je suis d'accord avec vous, hein. Je suis pas pour être un moine réfugié dans sa thébaïde, etc. Pas du tout. Mais je pense qu'il faut d'abord s'assumer, d'abord assumer sa solitude. Et ensuite seulement on s'ouvre aux autres. Hein. C'est, comment dire, les marcheurs solitaires, en montagne par exemple, quand deux marcheurs solitaires se rencontrent, ils se saluent et ils échangent des mots. Si vous voulez, hein, voilà. Donc, alors qu'au contraire dans les villes, dans la cohue, etc. Hein, alors, on n'a pas d'isolement, mais enfin, on est les monades au sens de Leibniz, hein, des êtres solipsistes, c'est-à-dire enfermés dans leur petit. Il n'y a aucune communication, aucune socialisation. Donc, je répète, il y a d'abord la solitude et après, une fois qu'elle est apprivoisée, la socialisation, la vie en société. Mais encore une fois, c'est vrai que la vie est relation, c'est relation avec l'autre, hein. Mais il faut d'abord connaître cette solitude et la respecter. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Je crois que c'est Moustaki qui chante ça, hein. Je ne suis jamais seul avec ma solitude. Alors la conséquence, quoi? C'est quoi? C'est le maintien d'une certaine distance dans le couple. Il faut que c'est un maintien nécessaire. Nécessaire, d'une certaine distance. Hein. Alors là, je vous invite à lire le livre de Khalil Gibran, qui s'appelle Le Prophète. Hein, le Prophète, et il dit, par exemple, « Versez-vous à boire, mais ne buvez pas dans le même verre. » Vous voyez, hein. Ça, c'est très important. Hein. Et il dit aussi que deux arbres qui sont plantés trop près l'un de l'autre se font de l'ombre. Hein, se font de l'ombre. Donc, il ne s'épanouissent pas suffisamment. Tous les jardiniers le savent. Il faut les laisser l'espace pour pour qu'ils puissent s'épanouir. Dans ce qui est meurtrier, c'est toujours être l'un sur l'autre. La promiscuité. Non, la promiscuité. C'est pas la fiancée qui a trop bu à la promiscuité. C'est le fait d'être tous toujours l'un sur l'autre, l'un avec l'autre. Vous voyez, c'est meurtrier pour l'amour, ça, la promiscuité. Peut-être faut-il éviter la vie commune, hein, dans les deux sens de l'expression, vie ensemble et vie banale. Alors là, peut-être que je choquerai certains d'entre vous, je ne sais pas. Mais enfin, moi, je me souviens quand j'avais des étudiantes qui me disaient, à propos de leurs copains, on s'aime, on va vivre ensemble. Mais je disais, attention, attention, si vous pensez ça, c'est que vous êtes une analphabète du cœur. C'est être un analphabète du cœur de penser ça. Il faut surtout pas se précipiter à ça, hein, vers ça, parce que c'est pas avoir assez réfléchi. Hein. Certains disent alors qu'il faut même pas le dormir ensemble, ce le Mitschlafen des Allemands, le dormir ensemble. Je ne sais pas, mais enfin bon. Dormir ensemble, c'est un peu celui qui voudrait coucher dans son garde-manger, si vous voulez, par exemple, hein, bon, dans son frigo, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, voilà, la chambre commune. Et pourtant, la doxa, c'est l'opinion commune, hein. La doxa, elle nous rebat les oreilles, justement, avec ça, hein. Le lit conjugal, voilà, le lit conjugal. Et si se produit ce que je disais tout à l'heure, que l'on rofle, etc., ça fait rien. On préfère ne pas dormir, mais parce qu'on a sacralisé le lit conjugal. C'est absurde, hein. Finalement, peut-être l'idéal serait de... Non, peut-être pas un toi sans toi. Alors toi, T-O-I, sans toi, T-O-I-T, hein. Mais au moins une maison avec deux ailes, si vous voulez. Bon, alors c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, hein, surtout aujourd'hui, l'espace étant restreint dans les logements. Mais bon, c'est peut-être, faudrait peut-être y réfléchir.